Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le dimanche 30 novembre 2025, vous écoutez le programme en français de la radio SBS. Il est 13h, nous allons passer une heure ensemble, je m'appelle Marianne Murat. On commence comme tous les dimanches avec le personnage qui a marqué la semaine.
Cette semaine, focus sur une véritable légende de la musique, Jimmy Cliff, premier artiste à faire rayonner le reggae bien au-delà des frontières de la Jamaïque, chanteur et compositeur. Il a marqué l'histoire de ce genre engagé. De ses débuts marqués par la pauvreté à ses plus grands succès internationaux, il a consacré plus de 50 ans à une musique porteuse de sens. Décédé à l'âge de 81 ans ce lundi 24 novembre, il laisse derrière lui l'héritage d'un artiste qui voyait sa musique comme un moyen de rendre le monde meilleur.
Cette semaine, notre personnage est une véritable légende de la musique. Il a été le premier à faire rayonner le reggae bien au-delà des frontières de la Jamaïque. Chanteur, compositeur, auteur, interprète et multi-instrumentiste, toutes ces qualités se combinent chez un artiste. À 81 ans, il nous a quittés ce lundi 24 novembre. C'est Jimmy Cliff. Apparu à la fin des années 1960, le reggae puise ses racines dans la musique américaine, anglaise, classique, le jazz, ainsi que dans les styles jamaïcains comme le mento, le ska et le rocksteady. De cette richesse naît un rythme polyrythmique, lent et profond, presque naturel, où la voix s'exprime avec une grande liberté. Le reggae, bien plus qu'une musique, devient un mode de vie engagé. Le reggae devient populaire grâce au sound system, de véritables institutions qui diffusent la musique dans la rue à l'aide d'immenses haut-parleurs. Né en 1944 sous le nom de James Chambers, il grandit dans une famille de 9 enfants marquée par une pauvreté extrême. Très tôt, sa voix douce et mélodieuse se distingue et il chante à l'église dès l'âge de 6 ans.
Well, there was the church, there was always music for everything in Jamaica, whether it be funeral, weddings, digging, working, there was a type of music for everything, you know. So all of those, there was music everywhere, so all of those forms of music had an impact on me.
C'est en chantant a cappella qu'il se fait repérer, et en 1962, il enregistre sa toute première chanson, Hurricane Hattie, inspiré par l'ouragan qui venait de dévaster son île. En 63, il rencontre deux nouveaux succès avec les titres Kings of Kings et Dearest Beverly. Ces tubes lui ouvrent les portes de la foire internationale de New York où il représente la Jamaïque. Le premier ministre jamaïcain Edward Seaga ainsi que Prince Buster et Byron Lee le recrutent alors pour exporter le ska, l'ancêtre du reggae. Déjà, il est considéré comme un véritable ambassadeur de sa musique. Sur les conseils de Chris Blackwell, le producteur d'Island Records, qui a également accompagné Bob Marley, Jimmy Cliff décide de s'installer en Angleterre. Avec son groupe, il parcourt les clubs de Londres, puis bientôt de toute l'Europe, tout en enregistrant plusieurs singles. Mais les demandes des clubs étaient surtout tournées vers la soul et le rock. Après de nombreux obstacles, Jimmy Cliff compose en 69 Many Rivers to Cross, une véritable incantation sur les difficultés et frustrations accumulées, reprises par de nombreux artistes.
I had big aspirations and dreams, and when I left Jamaica and came to the UK, at one point it seems as if the aspirations and dreams were not really coming through. So I guess all of those desperation and hurt and all of that was incorporated in that song.
Après son passage en Angleterre, il s'installe 6 mois au Brésil, où il dédie au pays cosmopolite et métis la chanson « Wonderful World, Beautiful People ». Il y écrit également en Vietnam une chanson pacifiste émouvante où une mère découvre le télégramme annonçant la mort de son fils. Dans les années 70, Jimmy Cliff s'ouvre à d'autres styles musicaux. Il enregistre de la soul et de la pop, voyage en Afrique et devient une star sur le continent grâce à Waterfall. Premier très grand succès, en 1972, The Harder They Come voit le jour. C'est à la fois le titre d'une chanson et d'un film signé Perry Henzel, dans lequel Jimmy Cliff tient le rôle principal, devenant ainsi la première star internationale du reggae. Dans le film, il incarne Ivan Martin, un jeune homme qui tente de percer dans l'industrie musicale corrompue de la Jamaïque. Avec ce rôle, Jimmy Cliff popularise le reggae dans le monde et ouvre la voie à Bob Marley. Il affirmera dans une interview que Perry Henzel et lui ont réécrit une grande partie de l'histoire pour qu'elle reflète ses propres expériences ainsi que son histoire personnelle. Dans les années 80, il revient au reggae avec les albums Give the People What They Want et Special. Il connaît un succès populaire avec Reggae Night, même si certains fans lui reprochent d'adoucir le genre. En 93, il revient dans les classements américains avec sa reprise de I Can See Clearly Now, issue de la bande originale du film Rasta Rocket, consacrée aux aventures de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh. Puis Hakuna Matata pour le Roi Lion, des chansons qui continuent de marquer plusieurs générations. Jimmy Cliff continue à faire des tournées jusqu'à un âge avancé, jouant notamment sur la scène du festival de Glastonbury en 2003 et séduisant une nouvelle génération de fans. Ses contributions à la musique et à la culture jamaïcaine sont reconnues en octobre 2003 lorsqu'il reçoit le prestigieux Order of Merit de son pays. Après 8 ans, en 2012, il sort un album intitulé Rebirth. Il obtiendra le second Grammy Award du meilleur album reggae de sa carrière. Il publie ensuite son album Refugees. Dans une interview, il résume son parcours après plus de 50 ans de production musicale. Je cite: mon rôle dans la vie est celui d'un humanitaire et à travers ma musique, j'essaie de rendre le monde meilleur. Une belle manière de clore le parcours d'un artiste légendaire.
Bruxelles est la capitale d'un pays qui va mal. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire à travers ces foutus journaux. Ils disent qu'on était endormi. Ouais, tout le monde sait faire des efforts. Mais personne prend comme moi le chromie.
C'était la chanson Nappeux du chanteur belge Roméo Elvis. On vous présentait hier un portrait de Pierrick Boyer, chef et propriétaire de Rêverie Café à Praran. Pierrick revient tout juste de Vannes où il a participé à la première édition de la Coupe du Monde de la Viennoiserie. Il y a représenté l'Australie en tant que juge et coach de la candidate Nikita Paula. Il nous raconte, c'est la suite de l'interview qu'on a commencé hier. Et vous pouvez, si vous voulez l'écouter d'une traite en intégralité, la retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
De retour en deuxième partie donc de cet entretien avec Pierrick. Pierrick, vous êtes toujours avec nous ?
Bien sûr.
Alors, qui a gagné cette Coupe du Monde, justement ?
Donc, c'était la Corée du Sud.
D'accord.
Après la Suisse. Mm-hmm. Et le Canada.
D'accord. Et les Français dans tout ça, ils sont où ?
Alors, le Français, c'était plutôt en milieu de classement.
Pour lui, c'est pris une claque, alors.
Bah oui, mais bon, je pense qu'il y avait la pression vu qu'il a gagné le championnat de France l'année dernière.
Uh-huh.
Moi, je sais que quand il a fait ses premières 2h30 à faire le premier jour, nous on jugeait les 5 équipes de la veille, et donc j'étais à côté de Ludovic Richard, le MOF, qui l'entraînait. Ouais, il avait beaucoup de pression, et c'est normal. Après, ce qu'il a fait. J'avais l'impression qu'il était assez nerveux dans ses gestes, très rapide, hein, très efficace, mais je sentais un peu de la nervosité.
Mmh.
Attention, hein, c'est quand même un concours.
C'est une Coupe du Monde.
C'est une Coupe du Monde. Et même on peut avoir un super mentor et être très bon professionnel, il y a ce facteur stress-risque et cuisine qu'on ne connaît pas et des... Et voilà quoi.
D'accord.
Mais bon, il a fait un travail exceptionnel.
Vous êtes fier de votre candidate ?
Ah oui, je l'ai même dit une fois qu'elle l'avait faite. J'avais juste vu les 5 autres équipes du premier jour et je m'étais dit, ouais, pas bien. Et le deuxième jour, quand même une grosse claque parce que dans le deuxième jour, il y avait les 3 premiers et on a vu que le niveau était exceptionnel. Mm-hmm. Mais je lui ai dit, quand elle a fini, je suis fier de toi quoi.
Ouais. Au final, elle a fini combien ?
Alors plutôt dans le milieu, ouais. Milieu bas,
d'accord.
Mais après il y a eu des pénalités.
Après, à ce niveau-là, le classement est peu importe en fait.
C'est peu importe parce que j'en discutais avec quelqu'un d'autre que je pensais qu'aurait été mieux dans le classement. Mais après, moi, j'ai pas vu les classements, les ratings sur, par exemple, sur le travail pendant le, tu sais, parce que t'avais plusieurs classes, t'avais plusieurs catégories. Ouais. Les autres, je les ai pas vus. Après, moi, je voyais que le produit fini et ce que j'ai vu quand j'étais là. On en parlait, mais je disais, c'est sûr qu'après, c'est plus par souci de comprendre.
Ouais.
Après, j'ai pas demandé les questions parce que, en fait, ça.
Non, mais enfin, c'est une expérience partagée. C'est une expérience que vous avez partagée. Et
voilà.
Et finir 14e ou 19e, en fait, au final, ça veut rien dire.
Voilà. Donc, alors, c'est sûr que des fois, tu dis, bon, on aurait préféré, machin. Tu dis, mais après, je préférais pas vraiment, après, poser trop de questions parce que c'est vraiment été une expérience qu'on a adorée. Les organisateurs, entre le salon, la coupe, c'était tellement bienveillant. Et si tu veux, c'était comme une ville de province que tu connais. Mais je veux dire, on a fait des amis et puis on a revu des gens que je n'avais pas vus depuis 25-30 ans. Ou alors des chefs qu'on se parle depuis plus de 20 ans et c'est la première fois qu'on se voyait. Et c'était incroyable. Mais moi, j'étais surpris avec la Corée, agréablement surpris avec la Corée, la Suisse, très, très bon professionnel où tous les deux travaillaient à l'école de Lausanne. Excellent niveau. Le Canada, vraiment des super gars. L'Italie, le Maroc, Venezuela aussi.
D'accord. Et il y a certains des créations que vous avez faites pour cette Coupe du Monde qu'on peut retrouver à Rêverie. C'est quelque chose où c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, augmenter de volume.
Oui. Alors, pour du volume, ça va être un peu plus délicat.
Et demain, je peux venir à Rêverie et avoir la brioche qui était présente à la Coupe du Monde. Pas la brioche?
Non, parce que la brioche, si tu veux, c'est quelque chose qui... on n'a pas vraiment l'impression que ça se vendrait beaucoup.
Ouais.
Donc, c'est faire une pâte séparée, tout ça.
C'est compliqué, la brioche.
Alors, nous, on fait notre pâte briochée pour les burger buns et pour les sliders pour le IT. Ouais. Donc là, oui, ça, on trouvera la bonne recette. Mais les autres brioches, tout ça, si on le fait en week-end et que c'est en spécial, ils l'ont fait, oui. Sinon, non. Sinon, c'est des pains au chocolat, croissants, des viennoiseries. On a des spéciaux. Par contre, on a fait en spéciaux, c'était une viennoiserie avec un caramel beurre salé avec du Vegemite.
D'accord, ok.
Alors moi, je suis pas fan du Vegemite, mais avec le caramel, ça donne, c'est super, bien dosé.
Hein, ça, c'est comme les anchois sur la pizza. Hein. On n'aime pas les anchois, mais dès qu'on met sur la pizza, ça,
c'est bon.
Ça augmente le goût.
Ah, c'est bon. Ah, moi,
c'est presque un assaisonnement.
Exactement. Et avec une ganache légère, Jean Dujat, franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel.
Ça vous retente de le refaire la prochaine? Il y en aura une autre? On sait déjà.
Alors, c'est tous les deux ans.
C'est tous les deux ans?
Oui, tout à fait. Après, il faut que j'en parle déjà si on peut être qualifié et tout ça. Après, vu que ça a été dur de trouver des sponsors, tout ça, et j'ai approché des grandes boîtes internationales pour le beurre, pour la viennoise, pour la farine. Unox, eux, ils sont on board. Mais après, pour organiser des sélections, c'est comme tout. Ça pourrait, à moins que ça soit aux frais de chaque candidat, de trucs et tout. Mais ça veut dire qu'il faudrait que j'organise des cuisines, des choses.
Ouais,
ou alors, si les gens amènent juste leur viennoiserie, il faut que ça soit frais. Enfin, beaucoup de logistique et des coûts. Alors, je sais pas. Il faudra que je leur demande si.
En tout cas, il y a de la réflexion, Péric.
Tout à fait. J'y ai pensé déjà dans l'avion en revenant. J'aimerais le faire. Mais après, c'est pas qu'une question de temps, mais de question de moyens aussi, pour que ça soit une sélection comme à la compétition, parce que c'est très important, c'est d'être préparé avec ça. Déjà, Paula, bah, elle serait keen to, pour le refaire.
Ouais.
Mais après, bon, on laisse passer les fêtes. On...
Ouais.
C'est une expérience.
Faut aussi profiter de l'expérience. Faut aussi profiter de l'expérience.
Tout à fait.
Donc,
Mais le truc, c'est que dès qu'on arrivait le dimanche soir à 8h du soir, à 8h du matin, on était à la boulangerie.
Et, bah ouais.
Et à la boulangerie, Christophe Roussel, à place du Lyoté, Général Lyoté à Vannes.
Mm-hmm.
Exceptionnel.
Je vois exactement où elle est cette boulangerie.
Ah ouais, et sérieux, si tu y vas, tu demandes à parler à Christophe ou à Charles, le chef pâtissier.
Je vois exactement où elle est cette boulangerie.
Qui a bossé à Perth, en
D'accord,
Australie.
Okay.
Et la petite histoire, c'est qu'il m'avait dit, ah ouais, j'avais demandé pour du boulot et tout, mais il n'a pas eu, parce qu'en fait, bon, l'anglais, il ne pratiquait pas assez. Mais vraiment, super pâtissier, une super beau boutique et une super équipe.
Ouais.
Et franchement, j'ai adoré. Ils ont été exceptionnels. Ils ont été géniaux.
Et on vous retrouve donc, pour finir cette interview, on vous retrouve à Rêverie, bien entendu,
oui.
Toujours au même endroit.
Oui.
C'est un peu une institution maintenant dans le coin, Rêverie. Ça fait un moment où vous êtes là, vous êtes bien installé.
Ça va faire 8 ans. Ça va faire 8 ans. Praran, 31 Izzet Street, à côté du Market, et Doncaster Westfield. Donc, oui, on commence à bien marcher. Ça a été... très dur les premières années, et surtout avec la
car park. On a suivi tout ça ici.
Ouais, vous avez été super, superbe soutien à tout ça aussi, et le Covid, mais bon, ça va mieux depuis, et puis on continue tous les jours à faire des produits frais, et puis d'amener cette passion que j'ai, qu'on a dans l'équipe, et puis voilà quoi.
Et ben merci Pierrick.
Grand plaisir, merci beaucoup Staff.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Regarde devant.
Je la mêle au présent, c'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Grand Corps Malade avec la chanson Nos plus belles années. Rencontre à présent avec Sabine Cotte, elle est restauratrice d'œuvres d'art et elle revient pour nous sur les enjeux techniques, historiques et ethniques de son métier. À travers son expérience et son enseignement, elle offre un regard sur la conservation du patrimoine et sur la dimension humaine qui accompagne chacune de ses interventions.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Notre invitée aujourd'hui sur les ondes de SBS French, c'est Sabine Cotte. Sabine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice, restauratrice d'œuvres d'art. Vous étiez déjà invitée de notre antenne, c'était en 2019, il y a 6 ans. Vous aviez parlé avec Christophe Mallet de votre ouvrage Mirka Mora, A Life Making Art, puisque vous avez fréquenté l'artiste Mirka Mora de près. J'invite tous nos auditeurs à aller écouter ou réécouter cette interview que je vais remettre en ligne. Mais cette fois, on aimerait parler de vous et de parler de votre métier qui est très intéressant. Comment on devient conservatrice, restauratrice, Sabine ?
Eh bien, il faut déjà aimer les œuvres d'art, bien sûr. Moi, à vrai dire, je ne savais pas que ce métier existait quand je l'ai découvert, mais j'avais une grande passion pour les antiquités, la brocante, réparer les choses, et je voulais devenir ébéniste. Et puis, je suis allée travailler un petit peu, j'étais encore au lycée, et j'étais allée travailler un petit peu chez un ébéniste. Qui m'a fait raboter des choses, etc. Puis c'était quand même assez dur. Et puis, un jour, il m'a fait retoucher des petits filets dorés sur une très jolie chaise Napoléon III. Et j'ai tellement aimé faire ça qu'il m'a dit « Mais il faut que tu sois restauratrice de tableaux, toi !» J'ai ouvert des grands yeux et puis ça a coïncidé avec l'ouverture de l'école de restauration en France. Et donc, après, je savais où me diriger, mais... Le profil des gens qui font ça, c'est en général des gens qui sont très intéressés par l'art, qui sont aussi très intéressés par l'éthique, la déontologie, puis la transmission de l'art. Et puis par le fait de toucher, de vraiment, moi ce que j'aime dedans, c'est l'intimité qu'on crée avec les œuvres d'art que personne n'a. On passe des heures et des heures avec une œuvre d'art. Et personne n'a cette chance de passer un moment aussi intime et aussi long avec des œuvres. Et retrouver le geste d'un peintre il y a plusieurs centaines d'années, ça continue à m'émouvoir profondément.
Est-ce qu'il faut connaître l'histoire d'une œuvre d'art et est-ce qu'il faut connaître ce qu'a voulu vraiment dire l'artiste pour pouvoir restaurer une œuvre?
Il vaut mieux, oui, c'est-à-dire il faut se documenter. La restauration, ce n'est pas d'appliquer des recettes, c'est d'essayer de comprendre déjà comment est fait ce tableau. Enfin, je parle de peinture puisque c'est mon métier. Comment est fait le tableau, avec quelle technique, comment l'artiste l'a monté, construit, etc. Comment il est endommagé. Et puis on peut aussi considérer, quand je vous parlais d'éthique et de déontologie, parfois on ne restaure pas certaines altérations parce qu'elles sont considérées importantes et font partie de l'histoire de l'œuvre. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, si quelqu'un griffe un tableau, c'est arrivé plusieurs fois, des tableaux religieux sont griffés lors de crises iconoclastes, par exemple, on peut considérer, suivant l'endroit où est placé ce tableau, suivant sa valeur, suivant ce qu'on a aussi de l'artiste, que parfois c'est tout aussi intéressant de garder l'altération et de ne pas la retoucher, de la laisser apparaître, puisque ça fait partie aussi, ça montre que ce tableau a traversé une histoire compliquée. Et puis si on peut toujours le lire, c'est tout aussi important, c'est son histoire matérielle et ça raconte une histoire.
Et on peut imaginer que dans la restauration, vous changiez un petit peu le tableau, des choses
Ah
qui
non.
se dessinaient à l'époque et qu'on ne pourrait plus voir aujourd'hui, par
Ah
exemple,
non.
jamais.
Non, non. Non, non, on ne peut pas faire ça, non. Non, c'est vraiment, il y a un code d'éthique qui est un peu différent dans chaque pays, mais enfin, les grands principes restent toujours les mêmes, c'est qu'on respecte totalement l'œuvre et qu'on respecte l'intention de l'artiste. C'est aussi pour ça que c'est important d'essayer de comprendre, de connaître l'histoire du tableau. Quand on restaure des tableaux d'art contemporain, c'est plus facile parce qu'on peut le demander à l'artiste, mais quand il n'est plus là, il ou elle n'est plus là d'ailleurs. C'est plus compliqué. Plus on se documente et plus on sait. Alors évidemment, on est toujours limité dans le temps. Quand j'ai eu la chance de travailler avec Mirka Mora, évidemment, j'ai travaillé 4 ans avec elle puisque c'était dans le cadre de ma thèse de doctorat, mais on a rarement cette opportunité. Mais c'est ce que maintenant je fais moins de restauration privée. Depuis 2 ans, je suis à l'université de Melbourne et j'enseigne la restauration et c'est vraiment ce qu'on essaie de d'imprimer aux étudiants en conservation ici, c'est de réfléchir, de se demander pourquoi on restaure. C'est pas seulement savoir comment le faire, mais savoir si c'est nécessaire de le faire.
Alors justement, quand on restaure un tableau, est-ce que c'est seulement parce qu'il a été abîmé? Est-ce que c'est pour le conserver sur le long terme? Est-ce qu'on peut faire ça par anticipation? Pourquoi on restaure les tableaux?
On peut restaurer un tableau parce qu'il a été abîmé. On peut restaurer quand il a été abîmé et que ça met en péril sa survie. Donc ça, c'est vraiment de la conservation au sens strict. Si la peinture commence à se décoller et à tomber, il faut faire quelque chose parce que sinon, il ne restera plus rien. On peut restaurer un tableau parce qu'on ne le voit plus. Le vieillissement normal d'un vernis, c'est de devenir plus sombre avec le temps. Si on ne voit plus rien ou qu'il est très sale, couvert de siècles de poussière, ou les deux, d'un vernis altéré et des siècles de poussière, on ne voit plus rien. On peut décider de le nettoyer pour retrouver l'intention de l'artiste aussi, ou quelque chose qui s'en rapproche, puisque les matériaux vieillissent aussi. Restaurer par anticipation, c'est intéressant comme idée, ça s'appelle la conservation préventive, et c'est en fait, ça prend beaucoup du temps des restaurateurs, c'est une grande part de leur mission, c'est-à-dire de faire en sorte que l'environnement soit un petit peu modifié pour que ce qui abîme les œuvres d'art soit moins présent. Donc ça peut vouloir dire contrôler l'environnement dans un musée, ça peut vouloir dire modifier les conditions de mise en réserve pour essayer que les tableaux ne s'abîment pas. Donc pour ça, il faut comprendre quels sont les phénomènes d'altération et comment on peut intervenir pour les réduire.
Et alors, j'aurais sûrement dû commencer par cette question d'ailleurs. Restaurer un tableau, ça consiste en quoi? Ça prend combien de temps? On fait comment?
Ah.
Quelle technique on utilise?
C'est un petit peu comme si vous me demandiez comment on fait pour soigner un malade. Ça dépend ce qu'il a. Donc, ça peut prendre très peu de temps, moins d'une journée, ou ça peut prendre des mois et des mois. Ça dépend vraiment ce qu'il y a. Enlever un vernis, ça ne se fait pas en faisant comme ça. Donc, parce qu'on peut aussi enlever tout ce qu'il y a en dessous. Donc, ça se fait très doucement. Il faut faire beaucoup de tests. Donc aussi, on a une partie de notre métier qui est un composant un peu chimique, où on sait un peu, on sait quels produits on utilise. Et puis on va toujours extrêmement doucement. Et puis ensuite, s'il y a de... C'est rare les tableaux qui sont intacts quand même quand ils ont plusieurs centaines d'années. Donc si on décide de restaurer les manques, il faut prendre le temps de le faire, il faut remplir les mettre à niveau et puis ensuite les restaurer avec de la couleur si on a décidé de le faire en accord avec tous les gens qui sont concernés par ce tableau. Et ça peut prendre très longtemps. Donc ça, c'est très variable.
Vous le disiez en début d'interview, c'est vraiment un accès privilégié aux œuvres d'art. Seul l'artiste a été aussi proche de son tableau.
Oui, et ça permet de retrouver, quand je vous parlais de retrouver le geste, c'est-à-dire plus on observe et plus on voit la touche d'un artiste, et puis parfois il faut essayer de la recomposer parce qu'il y a un petit bout qui est tombé, et c'est quelque chose qui m'émeut profondément d'être témoin d'un geste qui a eu lieu il y a plusieurs centaines d'années parfois, ou même simplement il y a 30 ans. C'est quand même déjà un témoignage, un lien à travers le passé, quoi.
Est-ce qu'on est forcément artiste soi-même?
Non, mais on a une sensibilité artistique. Tout le monde n'est pas artiste, mais tout le monde a un certain talent avec ses mains. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Je me rappelle qu'on nous faisait faire nous, des copies de tableaux en France quand j'ai fait mes études. Ici, on ne le fait pas pour les étudiants, mais on leur fait faire des tas d'exercices aussi pour développer leur talent en manuel.
Et vous, personnellement, vous êtes artiste?
Je me considère pas artiste, donc je fais des aquarelles quand je voyage. C'est ma façon de tenir un journal. J'écris pas, mais je dessine ce que je vois.
Vous êtes amené à beaucoup voyager, justement, dans le cadre de votre métier?
Ah, ça m'est arrivé, oui. Je suis allée beaucoup dans l'Himalaya. Je suis allée plusieurs fois au Bhoutan. Je suis allée au Népal pour restaurer et conduire des workshops où je formais des gens à la restauration, soit des bannières tibétaines, soit des peintures murales, soit pour disaster recovery, c'est reconstruction après un désastre naturel, donc comme au Népal après le tremblement de terre. Je suis allée aux Philippines, je suis allée en Inde pour travailler sur des façades peintes aussi. C'est vrai que c'est une chance. De pouvoir, enfin, tout le monde n'aime pas faire ça, mais moi j'aime beaucoup. Visiter un pays quand on a quelque chose à y faire et quand on contribue à préserver son patrimoine, c'est une autre sensation. On voit sûrement moins de choses, mais on les voit plus en profondeur.
Est-ce que c'est les tableaux qui viennent aux restaurateurs d'œuvres d'art ou les restaurateurs qui se déplacent pour aller restaurer les tableaux?
Y a un peu des deux. D'abord, il y a la taille, hein, ça dépend. Parfois, c'est pas très pratique, surtout si c'est pas une intervention longue. Et puis il y a la valeur aussi. En France, je me rappelle, bon, la plupart du temps, moi, j'essaie quand même que les tableaux viennent à moi parce que je suis mieux équipée, parce que dès que je vais chez quelqu'un, j'ai toujours besoin de ce que j'ai pas pris, évidemment. C'est dans tous les métiers comme ça. Mais en France, par exemple, au Louvre, les restaurateurs venaient au tableau. Le Louvre prêtait pas des tableaux. Mais d'autres musées les prêtaient. Bon, évidemment, ils font attention à comment. Les ateliers sont sécurisés et l'assurance suit les tableaux, mais c'est variable.
Vous avez évoqué la différence sur l'entraînement des mains entre la France et l'Australie. Vous avez travaillé plus de 10 ans en France avant de
Oui.
venir vivre en Australie en 2001 avec votre famille. Il y a d'autres différences d'approche pour ce métier selon le pays?
La différence, je crois que c'est. Moi, j'ai eu un enseignement extrêmement tourné sur la pratique. Et je crois que c'est toujours le cas parce que je garde des liens avec mon ancienne école. Donc, on faisait énormément, énormément de pratiques. Ici, on fait beaucoup plus quand même de réflexion, d'essayer de former des personnes qui ont une approche plus complète, plus générale. Et on met beaucoup l'accent sur le fait que la conservation, j'en parle maintenant que j'enseigne la conservation, c'est on restaure des œuvres d'art parce qu'elles sont importantes pour des gens. Ce qui n'intéresse pas les gens, c'est rarement restauré, parce que de toute façon, les budgets ne sont pas infinis. Et donc, on essaye de comprendre pourquoi elles sont importantes pour les gens et d'enseigner aux étudiants de pouvoir communiquer avec ces personnes-là de savoir ce qu'ils désirent, de savoir pourquoi les choses sont importantes et de quelle manière ils aimeraient que ce soit restauré, comment s'établit leur relation avec cette œuvre d'art. Ça peut être des communautés religieuses, ça peut être un musée, ça peut être des communautés indigènes, ça peut être des œuvres d'art qui sont toujours en usage, qui sont pas, toutes les œuvres d'art ne sont pas dans les musées accrochées, il y en a qui sont utilisées. Et donc ça détermine une autre façon de restaurer. Et moi, c'est ce que je trouve le plus passionnant dans ce métier, c'est la dimension sociale et humaine et le fait que ça fait plaisir à des gens, que ça contribue à rendre heureux des gens. À notre petit niveau.
Merci beaucoup Sabine de nous avoir raconté votre métier.
Je vous en prie, merci de m'avoir invitée.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Souvenez-vous, hier, on vous proposait le troisième épisode d'une série en quatre épisodes de l'histoire cachée de l'Australie, consacrée à Gough Whitlam. Et bien aujourd'hui, nous vous proposons le dernier épisode qui est consacré aux dernières années de sa vie après qu'il a quitté la vie politique et sur sa postérité.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, quatrième et dernière partie consacrée à l'ancien Premier ministre Gough Whitlam. On s'est quitté sur sa destitution par le gouverneur général, un fait unique dans l'histoire de l'Australie. On va s'intéresser aujourd'hui à sa vie après avoir été Premier ministre et également à son bilan et à sa postérité. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Ouais, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, effectivement, les élections suivantes, c'est une déculottée. Les Australiens préférant visiblement l'ordre au changement, voire à la liberté. Ça va plus ou moins marquer la fin de sa carrière politique. Il va se retirer du Parlement en 78 et il va être nommé à l'UNESCO où il va passer de très nombreuses années. Il va faire des choses intéressantes à Paris.
Alors oui, c'est un défenseur de l'UNESCO à un moment où elle est assez critiquée. On parle de corruption à l'époque, mais au début, il est ambassadeur australien à l'UNESCO. Et ensuite, il rejoint l'institution et son bureau de direction. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ça contribue à mettre, comment dirais-je, l'Australie sur la scène internationale. Très tôt, hein, dès 45, 46, 47, 48, l'Australie a cru en ce que un petit pays comme ça devait s'investir dans les organisations, les institutions internationales pour se faire entendre et éviter que ce soit toujours les plus grands et les plus forts qui gagnent. Et donc, si vous voulez, Whitlam s'inscrit dans cette tradition. Il est envoyé à Paris sous le gouvernement travailliste de Bob Hawke en 83. Et comment dirais-je, il y reste de mémoire jusqu'en 89. Voilà. Après, bon, en parallèle de ça, il reste une figure dominante quand même du Parti travailliste. Et il était un peu dans l'intérêt de personnes comme Hawke, le Premier ministre de l'époque, de l'envoyer aussi loin que possible pour éviter d'être un trublion sur la scène nationale. Parce qu'on voit souvent le cas d'anciens présidents ou d'anciens premiers ministres qui deviennent des figures d'un mouvement et qui empêchent un peu la jeunesse de développer de nouvelles idées.
Alors, il est mort, Gough Whitlam, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2014. Il avait 98 ans. Et bah, vous l'avez dit, les élections qui ont suivi son éviction ont été une vraie catastrophe. J'ai cru voir que dans les années immédiatement qui ont suivi son exercice du pouvoir, en fait, il était très très critiqué. On retenait voilà la gabegie financière, etc., etc. Vous nous avez dit aussi que dans les années qui ont suivi, il a passé beaucoup de temps à redorer son propre blason. Et donc, on est aujourd'hui presque 50 ans après son éviction du pouvoir. Et globalement, il a une image plutôt positive. On estime qu'il a voilà, accompli de grandes réformes, vous disiez, fait basculer l'Australie dans la modernité. Est-ce que c'est exact? Est-ce que effectivement, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a au final plutôt une image positive?
Alors oui, c'est quelqu'un qui a une image très très positive et comment dirais-je? Elle est positive parce que elle s'accorde avec nos valeurs actuelles, c'est-à-dire droits des femmes, antiracisme, énormément de travail qui a été fait sous Whitlam pour les communautés aborigènes, le domaine culturel également, les musées, les films. Vous avez tout un tas de choses qui sont regardées ou perçues positivement en Australie aujourd'hui, comme la sécurité sociale, qui sont directement liées à Gough Whitlam. Et aujourd'hui, le positif prend le dessus sur le négatif parce qu'en fait, le négatif a disparu. L'inflation galopante et les crédits à 15, 16, 17% n'existent plus. Donc, les années qui ont suivi le gouvernement Whitlam, effectivement, il n'était pas très bien vu parce que la population australienne se souvenait encore des difficultés économiques, du taux de chômage, enfin, de la bouillie financière dans laquelle le gouvernement avait mis le pays. Et donc, en fait, ces personnes qui ont directement vécu ces années-là s'en souviennent parfois assez négativement. Et en fait, voilà, enfin, moi j'ai eu l'occasion d'assister à ça, où vous avez des jeunes gens d'une vingtaine d'années qui parlent à des personnes beaucoup plus âgées de Whitlam avec voilà, les yeux qui brillent, et puis les personnes plus âgées leur disent, oui, mais enfin, effectivement, il y a eu toutes ces bonnes choses, mais enfin, la vie n'était pas rose, les salaires c'était compliqué, le marasme économique, l'inflation. Donc voilà, aujourd'hui, il est bien considéré parce que la fin de son mandat, les répercussions directes ont été oubliées. Et surtout parce que finalement, Fraser, qui arrivait après lui, était un libéral à la façon Thatcher et Reagan avant l'heure, quoi. C'est quelqu'un qui a fait d'énormes coupes dans les budgets, qui a renvoyé tout un tas de personnes, qui a laissé une image pas très sympa du parti libéral, donc de droite en Australie, qui a été de ce fait exclu du pouvoir pendant plus d'une décennie après.
In Sweden, we believe in just the right amount, embracing balance, minimalism, and simplicity. Something that Volvo believe in too. And when it comes to choosing your next car, we believe in just the right amount of choice. Between petrol, plug-in hybrid, and fully electric, there's a Volvo for everyone. So visit your local Volvo retailer to learn which one is right for you. Volvo.
Hey, ça y est, tu es connecté. Avec SBS On Demand, tu peux regarder des films et des émissions du monde entier. Le tout gratuitement. Regarde SBS On Demand en ligne ou sur ta Smart TV.
Un dernier mot, parce que c'est quelque chose qui m'a sauté à l'esprit pendant qu'on discutait, et puis quand j'ai fait mes recherches sur ce monsieur. Donc, on l'a dit, il représente pas exactement le moule typique du travailliste, en tout cas à cette époque-là. Il vient d'un milieu plutôt favorisé. Il a mis du temps à se faire accepter. Et l'un des succès qu'il a remporté, c'est d'avoir réussi à convaincre les Australiens que, qu'en gros, c'était pas juste le parti des ouvriers et des pauvres, pour le dire vite, mais qu'il a essayé de se rallier également la classe moyenne à sa cause. Et pourtant, le peu de temps qu'il a exercé le pouvoir, il a mis en place vraiment des réformes ultra progressistes, mis en place vraiment les fondations d'un État social. Et voilà, je trouvais ça surprenant, ce paradoxe, que c'est peut-être le moins à gauche des premiers ministres travaillistes dont on a parlé, en tout cas jusqu'à présent. et qui pourtant a mis en œuvre les réformes les plus radicales lorsqu'il était au pouvoir.
Alors ça, c'est vrai, ça peut sembler être un paradoxe en termes de personnalité. En revanche, dans un contexte, si on recule et qu'on prend le contexte international, l'Australie a un peu raté son tournant état social, ce qui a été un tournant pris par les démocraties occidentales au sortir de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit avec le Conseil national de libération en France, la Grande-Bretagne, et d'autres exemples en Europe. Vous avez vraiment la fondation d'un État du welfare state, quoi. Oui, l'État social, l'État-providence. Et en Australie, les travaillistes essaient quand ils sont au pouvoir, mais ils perdent ce pouvoir en 49. Et donc, pendant toute cette période de 22-23 ans, la droite conservatrice australienne n'a pas emboîté le pas aux autres démocraties libérales occidentales et surtout européennes dans ces réformes. Donc en fait, Whitlam, c'est un visionnaire, mais c'est aussi quelqu'un qui rattrape un certain nombre de choses qui ont été faites ailleurs et qu'il était surprenant de ne pas voir être réalisées en Australie. Et donc, c'est pour ça que vous avez un tel attelage législatif et de tels changements aussi rapides sur à peu près tous les sujets. Ça me rappelle le second Premier ministre qu'on avait étudié ensemble, qui, juste après la Fédération, on voit son emprise ou son empreinte ou sa patte sur à peu près tous les bâtiments, sur toutes les législations. Et bien, Whitlam, c'est un peu ce Premier ministre-là pour le XXe siècle australien, parce qu'il a modernisé, mais il a aussi mis à niveau l'Australie par rapport à des pays comparables.
Ok, eh bien merci beaucoup Romain Fati. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. On va revenir un petit peu en arrière pour le prochain, puisqu'on va s'intéresser à l'un des prédécesseurs de Gough Whitlam, un monsieur qu'on a mentionné dans cet épisode, celui qui a été le plus longtemps Premier ministre en exercice de l'histoire en Australie, Robert Menzies, et puis aussi parce que si on fait une série uniquement sur les premiers ministres travaillistes, on va être accusé d'être un peu partiaux. Donc on va s'intéresser à ce monsieur qui a ben, notamment dirigé l'Australie dans toute la période de l'après-guerre, durant laquelle il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses également. Merci encore Romain et merci à vous de nous avoir écoutés.
À très bientôt. Merci, au revoir, Grégory.
Merci.
Le duo Amadou et Mariam avec Fally Ipupa et cette chanson sont de faux. Watson SBS On Demand au mois de novembre 2025, suite et fin de notre épisode qui vous dit ce qu'il y a d'accessible et gratuit sur la plateforme de streaming sur SBS. On continue notre sélection avec ce film français adapté d'un roman à succès qui a marqué toute une génération. Manon des Sources est disponible sur SBS On Demand. On parle là du film de 1986, hein, réalisé par Claude Berry avec Daniel Auteuil et Emmanuel Béart, tous les deux d'ailleurs récompensés au César pour leur rôle. Le premier film, Manon des Sources, date lui de 1952 par Marcel Pagnol avec sa femme Jacqueline dans le rôle principal. 10 ans plus tard, Marcel Pagnol décide de développer l'histoire de son film dans un roman qu'il intitule L'eau des collines, divisé en deux parties, Jean de Florette et Manon des Sources. Claude Berry a donc ressuscité l'histoire plus de 20 ans après, dans une adaptation qui reste encore aujourd'hui un grand classique, notamment grâce à sa scène finale bouleversante. Foncez la voir donc sur SBS On Demand. Réalisé en 2018 par Julian Schnabel, At Eternity's Gate est un drame biographique expérimental américano-britanno-français. Le film retrace les dernières années de Vincent Van Gogh de 1988 à Paris, puis son installation à Arles, son internement à Saint-Rémy-de-Provence et enfin jusqu'à sa mort à l'auberge Ravoux à Auvers-sur-Oise. C'est l'acteur Willem Dafoe qui interprète le peintre. Bande-annonce.
Tell me, why do you say you're a painter? Because I love painting. I have to paint. I've always been a painter, that I know.
A born painter?
Yes.
How do you know?
Because I can't do anything else, and believe me, I've tried. I think of myself as an exile.
You're Vincent.
Yes,
Sales brother. I'm Paul Gauguin.
We have to start a revolution, do you understand?
We have to create a new vision, a new way of painting.
I spent all my life alone in a room. I'd like to find a new light for paintings that we haven't yet seen. There's something inside me, I don't know what it is. What I see, nobody else sees.
You're a stranger here. You drink too much. You're hysterical, out of control.
I don't want to calm down. It's called the act of painting for a reason.
Go away!
Don't you see that this painting is unpleasant? The townspeople have signed a petition against you. They don't want you to come back.
I can't stay here, Vincent.
You're surrounded by stupid, wicked, ignorant people.
So that's the reason why you cut off your ear. Your vision of the world is quite frightening, isn't it?
Yes. Sometimes I feel so far away from everything. I think I'm losing my mind. Sometimes they say I'm mad, but a grain of madness is the best of art.
Do you believe that God gave you the gift of painting? To keep you in misery.
I never thought about it that way. Maybe God made me a painter for people who aren't born yet. Tell me, brother, am I a good painter?
You're not a good painter, Vincent. You're a great painter.
I wanted so much to share what I see. Now I just think about my relationship to eternity.
Willem Dafoe a décroché la Coupe Volpi du meilleur acteur au Festival de Venise en 2018, ainsi qu'une nomination aux Oscars. Le titre de ce long métrage est inspiré de la peinture de Vincent van Gogh « À la porte de l'éternité ». Le film Coco Chanel et Igor Stravinsky, sorti en 2009, est également disponible, réalisé par Yann Kounen. L'histoire de la rencontre entre les deux personnages iconiques, elle, grande dame de la mode, lui, grand compositeur, de leur respect mutuel à leur liaison passionnée, on écoute le réalisateur à propos de ce film, Coco Chanel et Igor Stravinsky.
C'est vrai que c'est un film particulier à faire, parce que beaucoup de choses passent par la sensation, c'est-à-dire d'offrir la trajectoire aussi intérieure des sentiments des personnages à travers les sens que peuvent donner le cinéma. Mais bien sûr, il y a le son, il y a l'ambiance, il y a peu de mots, par exemple. Les sentiments passent par les regards. Et c'est vrai qu'il y avait l'envie d'avoir quelque chose, alors peut-être pas, je dirais pas moi, hypnotique, mais tant mieux si tu l'as perçu comme ça, parce que ça veut dire que ça marche. Mais oui, qui t'amène, c'est-à-dire qui te prend doucement et qui t'amène à suivre les personnages.
Et enfin, on termine notre sélection mensuelle avec le long métrage Little Jaffna, un film qui vous entraîne dans la communauté tamoule de Paris où se cache un gang méconnu mais très puissant. L'acteur Lorenz Valin passe pour la première fois derrière la caméra dans ce thriller qui est aussi entre fiction et réalité et qui pose la question de l'identité culturelle. Little Jaffna a pour toile de fond la guerre civile ayant fait plus de 70 000 morts et opposé de 1983 à 2009 le gouvernement sri-lankais au tigre tamoul. Et dans une interview, le réalisateur expliquait son film. Il disait « J'ai grandi en dehors de cette communauté avec ma mère et ma grand-mère. J'étais français. Je ne me sentais finalement pas particulièrement tamoul. Mais quand je suis arrivé dans le cinéma, on m'a tout de suite assigné à mon origine. J'avais compris que dans le cinéma français, je n'avais pas forcément la bonne couleur de peau. Pareil en Inde, où je suis considéré comme un blanc. Faire ce film était l'occasion de me créer une place. Et cette place, c'est d'être les deux. » Fin de citation. Voilà, messieurs, dames, pour notre sélection du mois de novembre sur SBS On Demand. Certains contenus des mois passés sont toujours disponibles. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, foncez retrouver la sélection du mois dernier. L'épisode en octobre sur SBS On Demand est disponible sur notre site internet ainsi que sur les plateformes. Et les films et séries dont on y parle, tout est accessible gratuitement sur la plateforme SBS On Demand et ce pendant encore plusieurs mois. vous avez le temps, mais il y a tellement de contenu, on voudrait ne pas en rater une miette. Alors régalez-vous, messieurs, dames. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point sur les contenus francophones. Bon visionnage et à très bientôt. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet ainsi que sur les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, même fréquence, même heure, avec Jean-Noël Ducasse. Je vous souhaite de passer un merveilleux week-end. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.